Vous écoutez RTL.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle semaine de l'heure du crime qui commence avec toute notre équipe, toujours fidèle au poste, même malgré les petites bêtes invisibles qui tournent autour de nous. Justine Vigneault est là, cachée derrière son foulard. Laure Broulard également est allée dans les archives sonores de la rédaction et nous a aidé évidemment à préparer ce dossier. À la technique de l'heure du crime, c'est Alexandre Cagzan. Et à la une, vous l'avez entendu, c'est l'affaire Marie-Jeanne Meyer. On va beaucoup reparler de cette affaire dans les 8 jours qui viennent, parce que le procès du meurtrier présumé de cette jeune lycéenne qui était partie faire son jogging, qui n'était pas revenue, ses parents étaient inquiets. On avait trouvé 3 jours plus tard son corps calciné et enterré dans la région de Tournon-sur-Rhône où elle habitait. Et donc le procès de son meurtrier présumé va s'ouvrir devant les assises de l'Ardèche mardi prochain. Le procès est prévu pour 4 jours. Il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire sur lesquelles nous allons revenir avec nos invités, à qui je vais donner la parole dans un petit instant. Frédéric Perruche, bien sûr, qui est le correspondant d'RTL, qui a suivi cette affaire depuis le début. Et puis Maître David Metaxas, qui est l'avocat de la famille Meyer. Maître Serge Billet, du barreau d'Avignon, qui est avocat d'Anthony Draoui, c'est le nom de ce meurtrier présumé. On va donc revenir sur l'enquête, sur les multiples rebondissements de l'affaire, sur les inquiétudes et les coups de gueule aussi qu'elle a suscité, il faut bien le dire, quand on a appris que ce meurtrier présumé, arrêté par hasard dans une autre affaire, le jour de la découverte du corps de Marie-Jeanne Meyer, avait été par la suite relâché, alors que c'était un garçon connu pour sa violence depuis de nombreuses années. Alors, on va remettre tout ça dans l'ordre dans un instant, mais d'abord, un premier document RTL, ce document... Il est 24 heures après la disparition de cette jeune fille. C'est Christophe Galut qui témoignait sur notre enquête de l'inquiétude générale dans la petite ville après la disparition de la lycéenne.
Cela fait maintenant 24 heures que Marie-Jeanne a disparu. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est partie donc courir hier soir à 18h. Vers minuit, sa mère alerte les gendarmes. Les recherches de nuit n'ont rien donné. Toute la journée, les recherches ont donc continué. Un hélicoptère survole en ce moment la zone de recherche. Mais plus le temps passe, plus l'inquiétude grandit ici à Tournon-sur-Rhône. Christophe Raffin est le procureur de Privas.
Toutes les pistes sont ouvertes, hein, parce qu'on peut imaginer l'accident fortuit, comme ça s'est passé dans une affaire qui a défrayé la chronique en Alsace, hein, mais aussi l'accident mal intentionné de la part du conducteur, mais aussi bon, le départ volontaire, la fugue, l'enlèvement crapuleux, voilà, tout cela est à vérifier.
Toutes les pistes sont donc étudiées, alors forcément c'est l'inquiétude pour le voisinage. Perle habite juste à côté de la petite maison de Marie-Jeanne.
C'est une jeune fille sans histoire, là. Il n'y a pas plus tranquille et plus gentille et plus discrète que cette jeune fille. Hein. Ouais. Moi, je me mets à leur place. C'est de la folie, c'est pas de la pitié. C'est pire que ça. C'est un drame. C'est monstrueux, quoi. Mais bon, pour le moment, peut-être il n'y a rien. J'espère.
Les recherches vont donc maintenant se poursuivre jusqu'à tard dans la nuit. Une enquête judiciaire a aussi été ouverte pour étudier d'autres pistes dans cette étrange disparition.
Voilà, donc c'était pour nous remettre dans l'ambiance de l'époque. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
Il faut dire que au départ, bien sûr, tout le monde espère qu'on va retrouver cette jeune fille, peut-être avec une jambe cassée ou parce qu'elle est partie faire du jogging dans un endroit quand même très très accidenté. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas évidemment dans la région en Ardèche, on n'est pas familier de ce genre de d'affaires criminelles, hein.
Non, a priori, non. Et puis surtout, ce qui est quand même troublant, c'est que Marie-Jeanne, très vite, la piste de la fugue est écartée, puisque c'est une jeune fille de 17 ans qui travaille très bien à l'école, qui est en première ES, qui est première de sa classe, que tous ses amis, tous les proches disent que c'est une jeune fille posée, bien dans sa tête, etc. Aucune raison qu'elle fugue, aucune raison non plus, pas désespérée du tout. Donc ouais, la piste du suicide, voilà, est très très vite écartée. Malheureusement... très vite, sa disparition devient inquiétante, quelques heures après, même tout de suite après, parce que les enquêteurs se rendent compte qu'elle n'a pas de raison de fuguer, elle part comme d'habitude faire son jogging sur les hauteurs de Tournon, elle n'a pas son téléphone portable, elle a simplement son écouteur MP3, et elle garde sa petite sœur, ce qui fait que, franchement, elle allait vite revenir, elle était partie pour une petite demi-heure, peut-être un peu plus, et elle revenait chez elle comme elle faisait d'habitude.
Voilà, elle avait une petite sœur et un frère de 15 ans, c'est une famille sans histoire, parce que dans le début de ces enquêtes-là, évidemment, les enquêteurs tentent de se renseigner un petit peu sur le climat familial, sur la personnalité des uns et des autres, et là, il faut dire, sont des gens qui étaient dans la région depuis un peu plus d'un an, je crois.
Voilà, c'est ça, c'est assez récent, le papa était ouvrier, la maman, elle ne travaillait pas, une famille relativement sans histoire, alors, les parents s'entendaient pas forcément, il y avait quelques querelles familiales, mais c'est tout ce qui ressort au niveau environnement, ce qui fait que très vite les enquêteurs se rendent compte que il s'est passé quelque chose probablement, ou alors c'est la piste de l'accident puisque effectivement l'endroit est assez accidenté.
Alors il faut dire que 3 jours après, c'est finalement le pire des scénarios qui va se révéler le bon grâce au témoignage d'un randonneur. On va revenir d'ailleurs sur ce témoignage ensemble. On va d'abord vous entendre dans un document RTL où vous expliquez aux auditeurs dans quelles circonstances c'est le témoignage d'un randonneur qui avait permis de retrouver la jeune fille. On vous écoute.
C'est un riverain intrigué par un feu ou des fumées inhabituelles samedi soir qui a retrouvé les lunettes et le lecteur MP3 de Marie-Jeanne hier matin. Il a ensuite alerté les gendarmes qui ont rapidement découvert le corps à proximité, complètement carbonisé, enterré dans un secteur très difficile d'accès. Christophe Raffin, procureur de Privas.
Il est retrouvé dans un trou qui était dans la terre. D'une forme particulière qui peut laisser penser qu'il était creusé avant samedi dernier. Carré, bien taillé, bien découpé. Voilà. Donc c'est pas un trou à la va-vite sur quelques centimètres de profondeur qui aurait permis de jeter très rapidement un corps et de le dissimuler sommairement avec un centimètre ou pas de terre par-dessus.
Ce trou aurait pu être creusé par des chasseurs il y a plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais ce qui est certain, c'est que l'auteur ou les auteurs des faits connaissaient bien les lieux.
Ça peut être plusieurs personnes, parce que si c'est un corps qui était décédé avant d'être amené sur ce point-là, il faut déjà être assez costaud ou musclé pour le transporter et pour le transporter dans ce type de terrain.
On comprend donc à partir du 21 juin, l'affaire change de registre. C'est un crime, c'est une affaire criminelle qui vient de commencer. Nous allons nous retrouver avec Frédéric Perruche dans un instant, après une pause, et nous allons revenir sur les circonstances de la disparition de la jeune fille.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et à la une de l'heure du crime, l'affaire Marie-Jeanne Meyer, je vous disais en commençant l'émission que on revenait sur ce dossier avec Frédéric Perruche et puis avec nos autres invités qui sont les avocats de la partie civile et bien sûr de la défense d'Anthony Draoui. Pour qu'on comprenne mieux ce qui va se discuter au cours des 4 jours de procès la semaine prochaine. Alors, Frédéric Perruche, je reviens vers vous. En fait, ce témoin qui va alerter les autorités parce qu'il a vu, je crois d'ailleurs dans la nuit du samedi, donc dans la nuit du jour où la jeune fille a disparu, il a vu des flammes qui montaient au loin, etc. Mais les enquêteurs vont mettre 2 jours, les gendarmes vont mettre 2 jours à localiser l'endroit.
Hein. Oui, ça n'a pas été très rapide. Alors on ne sait pas si l'information est passée comme elle aurait dû, mais c'est vrai que dès le samedi soir, au moment de la disparition, quelques heures après, un feu est signalé par un riverain. Les pompiers arrivent, ils constatent que le feu s'est éteint. Du coup, ils ne montent pas voir. À ce moment-là, le riverain, lui, ne sait pas qu'une jeune fille a disparu. Mais dès le lendemain, quand il apprend cette disparition, il rappelle les pompiers. Il alerte également les gendarmes et il faudra attendre encore 2 jours avant que ce témoin-là, ce riverain, monte lui-même sur place vérifier. Il constate qu'il y a quelque chose visiblement d'anormal. Il trouve des lunettes, le lecteur MP3. Là, tout de suite, il appelle la gendarmerie qui monte sur place, qui gèle la zone pour laisser les experts travailler. Et c'est là qu'il trouve le corps. Ça a pris un petit peu de temps.
Ouais, alors il trouve le corps de cette jeune fille dans un trou creusé dans la terre, mais pas un trou, si j'ose dire, creusé en catastrophe. Il y a tout un ensemble de choses qui posent des questions dès la découverte du corps.
Bah c'est C'est un trou de 2,50 m sur 3, 50 cm de profondeur, qui a été quand même creusé. Il faut un certain temps. Hein. C'est une terre qui est quand même très difficile, très dure. Ce que dit Anthony Draoui, ce qu'il dira par la suite, c'est que c'était là qu'il voulait installer un campement, construire une espèce de cabane. Il avait juste une tente de fortune à cet endroit-là. Il avait élagué tout autour. On trouve aussi des plants de cannabis. On a trouvé des abricots. On a trouvé des bouteilles, des tessons, etc., etc. Donc c'était quand même, entre guillemets, un lieu de vie, son lieu de vie, les 2, 3, 4 semaines qui ont précédé le jour du crime.
Et vous êtes allé sur place, vous avez pu vous rendre compte du fait que cet endroit est quand même loin de tout, très escarpé, très accidenté.
Ah oui, c'est très compliqué pour y aller. Il y a une espèce de sentier, mais c'est un grand mot, sentier, parce qu'il faut vraiment connaître. Si on ne connaît pas, on n'y arrive pas. Là aussi, les enquêteurs se sont demandé si le corps avait été transporté ou pas. Oui. Et très vite, ils ont exclu l'hypothèse, puisque vraiment pour y aller, même en marchant simplement, il faut passer à travers des ronces, une végétation extrêmement dense. Si on connaît pas, on n'y arrive pas. Et même en connaissant, franchement, c'est assez loin de tout. Il faut compter 1 à 2 km de marche à pied. Ça monte, c'est très aride. Pas facile d'accès, vraiment.
Alors, évidemment, il y a toute l'enquête se poursuit pendant des semaines et des mois. Il y a des prélèvements pour la police scientifique. Donc, il y a toute une équipe, évidemment, d'enquêteurs qui travaillent d'arrache-pied. Et il faudra attendre le 3 octobre suivant, hein, puisque la disparition a lieu, on l'a dit, en juin. Le 3 octobre, on apprend ce jour-là que, en fait, les enquêteurs sont sur la piste d'un jeune marginal connu des services de police, comme on dit. Et sur RTL, on entendait ce jour-là les explications d'Arnaud Grange.
Un marginal de 20 ans est activement recherché. Son ADN a été retrouvé sur les lieux où le corps de Marie-Jeanne avait été découvert carbonisé. Cette trace ADN atteste de sa présence sur les lieux du crime, mais ne signifie pas qu'il s'agit du meurtrier de la jeune joggeuse. Ce suspect numéro 1 est pour l'instant considéré comme un témoin important, mais élément troublant, le jeune homme, connu pour des faits de violence, des violences non sexuelles, est introuvable depuis plus d'un mois. Il aurait précipitamment quitté l'endroit où il était logé mi-juillet et depuis plus aucun signe de vie. Une fiche de recherche a été envoyée à tous les commissariats et gendarmeries de France ainsi qu'à Interpol. Alors c'est avec à la fois colère et prudence que les parents de Marie-Jeanne ont accueilli cette première avancée dans l'enquête. Ils ne souhaitent pas pour l'instant s'exprimer, mais j'ai pu discuter avec eux longuement hier soir par téléphone. Ils étaient très remontés car c'est par la presse qu'ils ont appris cette nouvelle. Ils dénoncent un manque d'information de la part des enquêteurs. Et concernant ce nouvel élément, ils préfèrent ne pas s'emballer. Pour eux, le lieu du crime était une sorte de repère de marginaux et ils craignent qu'il s'agisse d'un ADN parmi d'autres. Le père de Marie-Jeanne m'a d'ailleurs dit « Comme au moment des recherches, je ne crois que ce que je vois et j'attends de voir quelqu'un me noter qui reconnaît les faits. »
Alors, Frédéric Perruche, en fait, bien sûr, l'ADN de ce jeune délinquant a été retrouvé sur la scène de crime, mais ça ne dit pas qu'il est forcément l'agresseur. Mais on a son nom et on va évidemment beaucoup s'interroger sur son parcours. Et on va découvrir, et vous l'aviez expliqué sur l'antenne à l'époque, mais puisque vous êtes en direct, on peut y revenir ensemble quelques instants, que l'enquête avait révélé que ce suspect numéro 1, disons, se montrait en fait très instable et très violent depuis de longues années.
Oui, c'est un gamin perdu, c'est en tout cas comme ça que son avocat probablement tout à l'heure vous l'exposera, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas de père, qui a été élevé entre guillemets par sa mère et par sa grand-mère, une mère toxicomane notoire. Il a erré, si je puis dire, de foyer en famille d'accueil, déscolarisé dès le collège. Voilà, c'est pour planter un petit peu le décor, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de repère. Qui a été abandonné depuis tout petit et qui a basculé très vite dans la violence. Voilà, alors là, la violence, il y a eu des agressions contre sa mère,
dans un hôtel
qu'il a complètement dégradé. Il a complètement ruiné également l'appartement qu'il occupait avant d'atterrir dans ce fameux campement sur les hauteurs de Tournon. Il a agressé des gens ici ou là. Il a été plusieurs fois condamné pour incendie, pour violence, pour dégradation alors qu'il était mineur. Et il devait comparaître également dès le mois d'octobre pour des violences, pour une attaque contre un salon de coiffure.
Oui.
D'ailleurs, le jour où le corps de Marie-Jeanne a été retrouvé.
Oui, alors
ce qui lui a valu une garde à vue.
Et voilà, et il a été relâché ensuite, ce qui a vraiment créé une polémique après, évidemment, quand on a appris tout ça. On va faire une pause, on va parler de cette agression, et puis on va donner la parole, dans un premier temps, à Maître David Metaxas, parce que on imagine, évidemment, cette famille totalement détruite par toutes ces révélations successives. Douleur augmentée du fait qu'il va falloir des mois et des mois pour arrêter cet homme qui n'est plus en France. Bah oui, on saura plus tard qu'il était parti en Espagne. On y revient dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et on revient donc sur l'affaire Marie-Jeanne Meyer avec Frédéric Perruche dans un premier temps. Ensuite, on va entendre Maître David Metaxas, qui est l'avocat de la famille Meyer. Et dans moins d'une dizaine de minutes, Maître Serge Billet, qui est l'avocat d'Anthony Draoui. Anthony Draoui étant le nom donc de ce suspect numéro un à l'époque où nous sommes, où nous étions en train de parler. Alors, Frédéric Perruche, on a retrouvé dans les archives de la rédaction un témoignage qu'on va réécouter tout de suite à votre micro. Il s'agit de Yves qui est le mari d'une coiffeuse agressée par Anthony Draoui le jour où on a découvert le corps, donc 3 jours après en fait le meurtre, puisque on sait que le meurtre datait du samedi finalement, et le mari de la coiffeuse vous raconte comment ça s'est passé, quelle a été la surprise dans ce salon de coiffure, une agression extrêmement violente.
Il a agressé en lui ceinturant le cou avec un bras et en la menaçant avec une arme blanche avec l'autre main, quoi. Et il lui a dit, donne-moi la caisse ou je te plante. J'ai demandé ce qui se passait, elle m'a dit, mais il veut la caisse. Alors j'ai dit, tu veux la caisse, et je l'ai attrapé par le collet et je l'ai mis dehors, quoi. Il a proféré des menaces de mort.
Voilà, donc vous êtes allé sur place. Bien sûr, c'est un rebondissement incroyable. C'est-à-dire que on va se rendre compte que l'homme qui vient de faire cette agression dans ce salon de coiffure est celui qu'on recherche. On l'apprendra plus tard.
Exactement.
Évidemment.
On l'apprendra bien plus tard. Mais c'est grâce à cette agression qu'on a pu remonter jusqu'à Anthony Draoui, puisque il a levé là aussi, là il a donné son ADN, et c'est là que ça a permis de matcher, de faire correspondre les deux entre la scène de crime et cette agression. La difficulté, c'est qu'il est resté une nuit en garde à vue et qu'il a été relâché pour un procès un peu plus tard, en octobre exactement.
Oui. Il devait passer devant
devant un tribunal correctionnel, exactement. Parce qu'il a agressé la coiffeuse avec un épluche légume. Il est arrivé très très excité, très énervé. Ouais. Et c'est vrai que ça a beaucoup surpris donc Yves, le mari de la coiffeuse, et la coiffeuse, parce que il y avait quelques euros en caisse. Ouais. Et l'agression a été très violente, un petit peu gratuite. Et après, on a appris qui il était, pourquoi il était recherché.
Ouais. Voilà. Et lorsque Yves a appris donc que cet homme avait été relâché, il a poussé, toujours à votre micro, un véritable coup de gueule qu'on va réentendre.
C'est là où je sors de mes gonds, c'est là où je comprends pas. Il faudrait que le procureur de la République m'explique comment on peut laisser courir quelqu'un qui vient de menacer avec une arme blanche, qui a porté un coup, qui a fait des menaces de mort. Comment se fait-il que le lendemain, on le trouve dans la rue? C'est effarant.
Voilà, Maître David Metaxas, vous êtes près de Frédéric Perruche, bonjour.
Bonjour.
On va évoquer évidemment tout cela au procès qui s'ouvre mardi prochain.
Oui, c'est pas un corps qu'on a retrouvé. Moi, c'est par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, on a retrouvé un tronc et une tête. Ouais. Et pour la famille de la victime, je crois que c'est important. Nous, on va au procès avec à la fois de la sérénité et en même temps une vraie quête de vérité. En fait, le père, la mère, le frère et la sœur veulent essayer de comprendre comment Marie-Jeanne a pu mourir dans ces circonstances-là. Je rappelle quand même que les constatations médico-légales qui ont été pratiquées sur son corps à la suite de sa découverte, ont objectivé le fait qu'elle avait eu un enfoncement du massif facial.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle a tellement été frappée, y compris avec une barre de fer au visage, que son visage est rentré dans son crâne.
Oui.
Que le thorax a également été enfoncé. Qu'elle a été démembrée. Et on a retrouvé sur place une hache dont le manche était brisé, supportant l'ADN de Marie-Jeanne. Autrement dit, à la suite de la disparition de Marie-Jeanne, je pense qu'on peut le dire comme ça, la vie de ses proches a basculé en enfer.
Bien sûr.
En enfer, et c'est l'incompréhension. Après, un dossier d'instruction mené dans des conditions aussi qui n'ont pas été satisfaisantes pour la famille, qui a été quand même tenue écartée du processus judiciaire. Il faut quand même rappeler que, par exemple, au moment de la reconstitution qui devait permettre aux proches de mettre des images, on leur a dit non. On leur a dit non parce qu'Anthony Draoui ne voulait pas mimer la scène en présence des proches de la famille. Donc, beaucoup d'incompréhension, l'impossible deuil aussi à faire.
Oui.
Quand on perd quelqu'un, vous l'avez indiqué avec Frédéric Perruche en début d'émission, cette jeune femme de 17 ans, qui pour donner quand même une idée, était la première de sa classe, elle était en première, elle passait son bac de français le lundi suivant, oui. Elle a disparu le samedi, le lundi suivant elle devait se présenter à ses examens, oui. Elle avait un petit ami, tout le monde, et il y a une unanimité à Tournon pour dire qu'elle était une jeune femme agréable, souriante, gentille, et cette jeune femme a été frappée par l'horreur absolue. Moi, c'est simple. Quand j'ai vu les photos de l'autopsie, après avoir fait des procès de catastrophe, après avoir vu des accidents, on ne peut pas situer le moment où commence l'autopsie tellement que son corps a été mutilé. Et puis, dernière chose, elle a été brûlée. C'est-à-dire qu'elle a été massacrée par des coups. Elle a été poignardée à plusieurs reprises. Elle a été démembrée. Et enfin brûlé, ce qui pour nous signe le fait que Anthony Draoui était parfaitement conscient. Et là, je crois qu'il n'y a pas de débat. Il était parfaitement conscient sur ce qu'il a fait, puisqu'il a essayé de faire disparaître le corps en mettant des pierres et puis par la suite des branchages dessus, ce qui explique que malgré des témoignages, malgré des signalements, pendant 3 jours, on ne l'a pas retrouvé. Je vous donne une idée, une image quand même. Celle d'un père, le père de Marie-Jeanne, en train de chercher au moment de sa disparition sa fille pour essayer de la retrouver et qui est passé à une centaine de mètres
de
la fosse, sans pouvoir malheureusement voir l'incendie qui ravageait le corps de sa fille. Vous voyez, donc pour nous, il y a une forme de préméditation avec un individu qui par la suite a pris la fuite, qui a commis encore une exaction, c'est là le témoignage qu'on vient d'entendre, et puis surtout qui s'est mis en cavale, faut appeler un chat, en Espagne, où il a disparu, et on a eu beaucoup de chance. Et on a eu beaucoup de chance de pouvoir le retrouver.
Ouais, on va parler de ça dans un instant, maître. Mais dans ce que vous avez dit, on a compris qu'il y aura au centre des débats cette question meurtre ou assassinat. La peine n'est pas la même, hein, et la différence entre le meurtre et l'assassinat, c'est que l'assassinat est un meurtre prémédité. Hein, on est bien d'accord.
On est bien d'accord.
Voilà. Alors, on va se retrouver dans quelques minutes ensemble. Après cette pause, on va rappeler les circonstances dans lesquelles Anthony Draoui a été arrêté au cours de cette cavale vers l'Espagne, mais qu'il avait ramené en France. Enfin, on va vous expliquer tout ça avec Frédéric Perruche. Et puis, nous aurons donc Maître Billet en ligne qui va nous faire le portrait de celui qu'il va avoir à défendre dans 8 jours face à des événements aussi accablants que ceux qui viennent d'être rappelés.
L'heure du crime sur RTL.
À la une de l'heure du crime, donc l'affaire Marie-Jeanne Meyer. Dans un petit instant, on va voir en ligne Maître Serge Billet du barreau d'Avignon, qui est l'avocat d'Anthony Draoui. Mais avant de lui donner la parole, on va simplement se rappeler à travers un document RTL du 8 juin 2012, dans quelles circonstances le meurtrier présumé de Marie-Jeanne a été arrêté lors d'un contrôle par la police ferroviaire espagnole. Écoutez les explications que donné ce 8 juin 2012, Frédéric Perruche qui avait suivi évidemment l'affaire depuis le début, comme vous l'avez compris.
À la première question du juge, le jeune homme a répondu oui. Oui, j'ai tué Marie-Jeanne, puis il s'est effondré en sanglots. Il ne s'est pas expliqué sur ses motivations. Guère de précision non plus sur les circonstances du drame. Anthony Draoui aurait vécu plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à proximité du lieu du crime en pleine forêt. Il aurait croisé la jeune fille ce 18 juin au soir, par hasard. Il aurait même discuté avec elle avant de la tuer de plusieurs coups de couteau. Il a reconnu avoir agi seul. La solitude, un père inconnu, une mère alcoolique, prostituée, pas d'amis, voilà ce qui pourrait expliquer la dérive criminelle de ce jeune homme, selon son avocat, maître Samuel Cornu.
Ce que j'ai vu, c'est un garçon dans un état d'extrême souffrance et qui a une difficulté extrême pour parler des faits en eux-mêmes, oui. Ce que je vois, c'est un jeune garçon qui a été totalement abandonné par sa mère, hein, avec laquelle il existe un rapport pour le moins conflictuel, quasi meurtrier, je dirais. C'est un garçon qui a manqué totalement d'affection. C'est un garçon qui n'a pas été aimé. C'est peut-être une des principales causes de ce dossier.
Anthony Draoui aurait quitté la France juste après les faits. Il a probablement vécu à Barcelone, dans la rue ou dans des squats. Mais il aurait passé ses derniers jours à Annonay en Ardèche pour essayer de voir sa mère. Et c'est en repartant vers l'Espagne qu'il a été interpellé dans un train juste après la frontière.
Alors en ligne, maître Serge Billet. Bonjour maître.
Oui, bonjour.
On vient d'entendre votre confrère qui à l'époque était l'avocat d'Anthony Draoui. C'est vous qui allez avoir la tâche donc de le défendre mardi prochain. C'est difficile pour un avocat ce genre de dossier parce que dès qu'on dit quelque chose en faveur de quelqu'un qui est présumé auteur d'actes aussi horribles, on a l'impression qu'on lui cherche des excuses. Quel va être votre rôle?
C'est une tâche redoutable, incontestablement. La cour d'assises va devoir examiner la situation d'Anthony Draoui. C'est un garçon qui a un parcours très particulier. J'ai entretenu avec lui, depuis que je le rencontre, une relation, j'allais dire, des liens affectifs, presque des liens affectifs, parce que c'est un jeune garçon qui suscite l'empathie, incontestablement. Et lorsque l'on découvre l'ensemble des éléments qui ont été recueillis par le juge d'instruction dans le cadre de cette procédure, on s'aperçoit que c'est le parcours d'une enfance totalement abîmée par les relations avec sa mère, les relations avec sa grand-mère, le fait qu'il n'y ait pas eu de repères véritablement paternels tout au long de son éducation, ont fait que celui-ci a grandi presque comme un enfant sauvage. C'est une tâche difficile, incontestablement, et je dois dire, en écoutant ce que j'ai entendu tout à l'heure, que Draoui, lorsqu'il a été interrogé par le juge d'instruction, les premières paroles qu'il a pu donner au juge d'instruction ont été de reconnaître incontestablement l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Vous disiez tout à l'heure, ou j'entendais tout à l'heure M. Perruche expliquer qu'il s'était immédiatement après effondré en sanglots. C'est la réalité de la situation, et Anthony Draoui a, sur ce terrain-là, toujours pris ses responsabilités. Je dis cela pourquoi ? Je dis cela simplement parce que j'ai entendu tout à l'heure, et je peux comprendre parfaitement, c'est une tragédie pour la famille de Marie-Jeanne Meyer. C'est une tragédie, et on a souhaité, on a tenté tout au long de l'information de faire reconnaître une autre qualification aux faits qui sont reprochés à Anthony Draoui.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, entre le meurtre et l'assassinat. Hein,
c'est d'assassinat. Ça, oui. Et c'est vrai que tout au long de l'instruction, l'ensemble des expertises scientifiques, médico-légales qui ont été recueillies sous le contrôle du juge d'instruction ont permis totalement d'accréditer les propos qui étaient tenus par Anthony Draoui. Ce qui veut dire que on a dans une information, avant qu'un procès ne passe aux assises, devant une cour d'assises, on a des repères, on a des organes de la procédure qui font qu'on contrôle bien évidemment l'authenticité et la véracité des propos d'un futur accusé. Là, procureur de la République, pas d'assassinat, juge d'instruction, pas d'assassinat, et une chambre de l'instruction qui est en charge d'examiner, bien évidemment, le bon déroulement d'une information, pas de préméditation. Donc, je voulais le rappeler parce que je peux comprendre parfaitement que on soit aveuglé aussi par le chagrin et la douleur, mais à un moment donné, il y a une logique judiciaire, et c'est cette logique judiciaire qui doit s'appliquer.
Ouais. Mais on s'est pas étendu beaucoup sur les circonstances dans lesquelles il a été arrêté par la police ferroviaire espagnole, mais quelqu'un ne manquera pas de vous rappeler à ce moment-là, j'imagine, dans le procès, qu'il aurait été arrêté en possession d'un couteau, fil électrique, ruban adhésif, ce qui alourdit, on va dire, le jugement qu'on peut porter sur cet homme. Comment explique-t-il à ce moment-là le déchaînement de violence? Parce que en fait, il n'a pas donné de mobile au magistrat instructeur.
Il n'y a pas de mobile. C'est un crime sans mobile. C'est pas le comportement d'un prédateur. C'est pas le comportement de quelqu'un qui va imposer une relation sexuelle en présence d'une arme. on n'a pas de mobile. En réalité, c'est un garçon qui a grandi dans les conditions que j'ai exposées, qui est complètement fracturé, qui a été confronté à la violence, à l'indifférence, à l'irresponsabilité. Et il y a une sorte d'intolérance à la frustration. Marie-Jeanne Meyer était une jeune fille qu'il venait de rencontrer et avec laquelle il avait ébauché, en quelque sorte, une relation, semble-t-il, affective. Il l'avait investie, du moins, de cette façon-là.
En quelques minutes ?
En quelques minutes. C'est ce que disent, en tout cas, les experts psychologues. Et le rejet de Marie-Jeanne, dans les conditions qui vont être largement abordées, et c'est le rejet de trop, et c'est une espèce d'intolérance à la frustration. Il y a, chez Anthony, une sorte de souffrance émotionnelle intense à laquelle il répond d'une manière impulsive, et c'est le couteau qu'il va utiliser à ce moment-là.
D'un mot, maître, parce que le temps passe, je suis désolé de vous presser, mais vous allez vous demander au tribunal une forme d'indulgence, des circonstances atténuantes ?
J'ai demandé à ce que le verdict soit empreint d'une once d'humanité, parce que véritablement, on est en présence d'une tragédie. Vous savez, dans ce genre de trajectoire qui s'entrecroise, il y a la douleur des victimes et puis il y a également la douleur de l'accusé. C'est certainement pas la même, mais elle existe et c'est ce que je vais demander à la cour d'assises de prendre en considération.
Je vous remercie beaucoup en tout cas de nous avoir donné cet éclairage sur la personnalité de celui que vous allez défendre mardi prochain. Merci beaucoup, maître.
Merci.
Dans un instant, après cette pause, la dernière partie de l'émission, on va rejoindre Frédéric Perruche et maître David Metaxas, l'avocat de la famille Meyer, dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Évidemment, la mort de cette jeune lycéenne, la mort atroce de cette jeune lycéenne a profondément bouleversé l'ensemble de la région. On va y revenir dans un instant avec Frédéric Perruche et avec maître David Metaxas. Il faut dire que, vous l'avez compris, le meurtrier présumé a été arrêté un peu moins d'un an plus tard, en juin 2012. Les faits datent de juin 2011. Entre-temps, le 21 janvier 2012, 7 mois après le drame, les obsèques de Marie-Jeanne Meyer avaient pu être organisées. 7 mois parce qu'il y a eu évidemment tout l'aspect police scientifique, expertise scientifique. Il fallait attendre que ces expertises soient terminées pour que Marie-Jeanne puisse avoir ses obsèques. Elles ont eu lieu évidemment à Tournon-sur-Rhône. Et, il faut dire que près d'un millier de personnes ont assisté à ces obsèques. Et Arnaud Grange était sur place pour RTL.
Des visages fermés par l'émotion, des regards figés sur un cercueil en bois clair, celui de Marie-Jeanne. Au cours de la cérémonie, près d'une quarantaine de lycéens, des amis de la jeune fille, sont venus déposer des roses blanches avant que sa cousine ne prenne la parole.
Marie-Jeanne, petite chérie, sache que ton papa et ta maman sont fiers de toi. Tu es notre rayon de lumière que nous garderons précieusement au fond de notre cœur.
Dans une église comble, les habitants de Tournon-sur-Rhône étaient nombreux, l'affaire est encore dans toutes les têtes et beaucoup se sentent concernés.
Je suis moi-même une maman et je pense que moins des choses, c'était d'être là.
Comme on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à notre propre famille et j'espère qu'ils retrouveront les auteurs de ce crime.
Car depuis 7 mois, l'affaire n'est toujours pas élucidée. Le suspect numéro 1, un jeune d'une vingtaine d'années dont l'ADN a été retrouvé sur les lieux du crime, est toujours en fuite, ce qui provoque la colère et l'incompréhension des habitants.
Moi, ça me révolte parce qu'il y a 7 mois quand même qu'on attend ça.
Ce gars-là, il est toujours pas prêt. Tout le monde, naturellement, se pose des questions. Pourtant, la justice dit qu'elle fait son travail. Moi, je veux bien, mais bon.
L'impatience grandit. La famille de Marie-Jeanne a certes pu célébrer aujourd'hui les obsèques de la jeune fille, mais son travail de deuil n'a lui toujours pas commencé.
Commencera peut-être la semaine prochaine au cours de ce procès qui arrive, qui va être très suivi. Frédéric Perruche, évidemment, on a compris que l'émotion avait été vraiment maximum dans la région. Est-ce qu'on peut dire, Frédéric Perruche, à la lumière de ce que vous connaissez du dossier, qu'il y a un scénario vraiment proche de la réalité? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Cette jeune fille fait son jogging, sur son parcours, elle va tomber sur ce marginal qui campe dans les bois depuis plusieurs semaines.
Oui, c'est exactement ça. Ils se croisent un petit peu par hasard alors qu'elle fait son jogging. Lui dit qu'ils se parlent, ils discutent, elle accepte de venir avec lui sur son campement. apparemment sans violence, en tout cas c'est ce qu'il dit, il ne la contraint pas. Là ils discutent, il tente de l'embrasser à deux reprises, dit-il. Elle le rejette et du coup il parle d'un coup de poing suivi de coups de couteau, en fonction des versions et des constatations, 2, 3, 4 coups de couteau. Et puis c'est terminé, et après il l'ensevelit et il la brûle. C'est en tout cas sa version, elle a un petit peu changé en fonction des auditions. Après il y a effectivement démembrement ou pas, visiblement oui. Est-ce qu'il l'a frappé beaucoup plus violemment au visage ? L'autopsie est un peu moins catégorique, mais ce qui est clair c'est qu'il y a eu des coups de couteau, tout simplement parce qu'elle refusait ses avances et que... En tout cas c'est ce qu'il dit lui, sans réellement rentrer dans les détails, il s'expliquait à minima sur les faits réels. Ouais,
et il dit en fait qu'il n'avait pas l'intention de donner la mort, ce qui est effectivement ce qui va être en discussion évidemment à partir de la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup Frédéric. Je voudrais juste dire un mot encore avec peut-être Maître David Metaxas. On a entendu votre confrère. Bon, bien sûr, toute personne et c'est bien normal, doit être défendue, quelle que soit l'horreur des faits. Qu'est-ce que vous attendez du procès ?
À la fois beaucoup de choses et en même temps, il y a une forme de résignation. Il y a une forme de résignation de la part du père et de la mère, du frère et de la sœur, parce qu'ils ne croient pas en la parole d'Anthony Draoui. Anthony Draoui, comme vous l'avez souligné, dans sa dernière version, dit « j'ai jamais voulu tuer Marie-Jeanne ». Donc ça ne cadre pas du tout avec les constatations médico-légales. Et les parents s'interrogent, parce que vous savez, quand vous êtes confronté à cette réalité-là, vous vous posez plein de questions, parfois même... proche du fantasme. Et pourquoi d'abord ? Pourquoi elle ? Pourquoi elle ? Pourquoi ce déchaînement de violence ? On a des réponses. On sait qu'il a essayé de l'agresser sexuellement. Lui dit qu'il a seulement voulu l'embrasser. Le problème, c'est qu'au niveau médico-légal, on ne peut plus faire de constatation. Il a tellement brûlé son corps que, quand bien même il l'aurait violé, on ne pourrait pas l'établir. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi ce déferlement de violence. Et puis, je crois aussi, est-ce qu'il a agi seul ? Parce que vous savez qu'on a retrouvé un ADN.
Absolument, c'est une des questions que je voulais vous poser, puisque, alors je ne sais pas qu'on a retrouvé de l'ADN, mais la question, le procureur de la République se l'a posée dès le début, en disant que le terrain était très accidenté, qu'il fallait, qu'il avait du mal à imaginer une personne seule pouvant traîner le corps jusqu'à cette fosse où on l'a retrouvé.
Et c'est tout à fait vrai, puisque j'ai moi-même eu l'occasion d'y aller sur les lieux, et le transport du corps tout seul est impossible. Donc effectivement, on se pose la question d'éventuelle complicité, étant précisé qu'on a retrouvé un ADN non identifié sur le soutien-gorge de Marie-Jeanne. Et ça a toujours été une des grandes questions du dossier. C'est, en fait, les parents veulent comprendre. Vous parliez de processus de deuil. C'est impossible. Moi, je défends quand même une famille dont la petite sœur a encore fait une tentative de suicide récemment. Les parents ne vivent plus ensemble parce que la cellule familiale a explosé sous le coup de la catastrophe. Et en fait, le processus de deuil est absolument paralysé. Alors j'espère, peut-être un peu de façon naïve, mais j'espère qu'au moins ce procès-là, et puis la confrontation aussi, parce que les parents n'ont jamais rencontré Anthony Draoui. Et Anthony Draoui, c'est important. Mon confrère disait, il est dans son rôle, qu'il y avait une reconnaissance de responsabilité.
On ne va pas commencer le procès tout de suite.
Non, mais il n'y a jamais eu un mot pour la famille. Donc lui n'a pas eu d'once d'humanité. Il va en demander à la cour d'assises. On verra bien.
Je vous remercie beaucoup, en tout cas merci infiniment d'avoir participé à cette émission quelques jours avant l'ouverture du procès. Merci beaucoup Frédéric Perruche.
Merci à vous.
Et l'émission est maintenant terminée. On va retrouver Flavie Flamand dans un petit instant.
RTL.
Toujours avec vous.